Bonsoir et bienvenue à tous. Infirmière de soins palliatifs, notre invitée nous propose un ouvrage retrace son parcours à travers une maladie très très grave. Le sous-titre « Récit d'une guérison inattendue » ouvre sur un discours d'espoir que l'on va distiller tout au long de cette rencontre. Sylvie Staub est notre invitée jusqu'à 21h. Bonsoir Sylvie Staub.
Bonsoir.
Beaucoup de personnes qui traversent cette maladie, qu'est le cancer, ne guérissent pas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ?
Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
Tout est bien comme ça, on fait de notre mieux chacun. Je pense qu'on a... Le plus important, c'est de chercher en nous comment on peut être le plus confortable avec ce qui nous arrive, comment on peut retrouver peut-être une certaine paix intérieure ou un certain confort, du moins, avec les symptômes qu'on a, avec les peurs qu'on a. Ça, c'est notre travail. Et le reste, ça dépend pas de nous.
Ça veut dire que vous avez pris cette maladie un peu comme un chemin. Et ça, c'est déjà très fort.
Alors, ça s'est passé tout seul, hein. J'ai pas vraiment réfléchi, si je puis dire. J'ai essayé à chaque fois, c'était nouveau, vraiment. J'avais pas cette habitude de choisir ce qui m'apportait le plus de confort.
Même dans les pensées.
Oui, exactement. Parce que je sentais que j'avais besoin de ce confort, j'avais besoin d'un certain bien-être intérieur pour avancer, tout simplement, parce que c'est trop dur, sinon. Mais c'était pas un confort du style paresseux où je niais des choses. C'était choisir par rapport aux difficultés que je devais rencontrer la solution qui était la plus agréable, la plus confortable.
Jour après jour, instant après instant.
Oui, c'est ça, ouais. Privilégier le bien-être du moment.
Alors ce titre, « Cellule, je vous aime », c'est un titre qui interpelle. Comment vous l'avez choisi et que veut-il dire ?
Alors c'est venu tout à la fin, hein, c'est la dernière partie au fond. C'était la dernière étape une fois que le livre était terminé, que j'ai réfléchi sérieusement au titre. Et puis parce qu'il me semblait que ce parcours à travers la maladie, c'était un parcours un petit peu de... descente de la tête raisonnable au cœur qui ressent, hein, qui choisit comme ça en fonction de l'intérieur. Donc il y avait un peu l'idée de se rapprocher d'une sagesse plus profonde, intériorisée, etc. Mais il y a des titres là autour, ça faisait pompeux, avec le mot soi, tout ça, ça faisait un peu pompeux. Et puis tout à coup, ça m'est venu comme ça. Chère cellule, je vous aime. Et puis après, on a abrégé cellule, je vous aime, parce que c'était un moment crucial.
Mais c'est vrai que vous l'avez... ressenti à un certain moment que ces cellules qui, certaines tombaient malades, étaient vos partenaires, en fait, dans ce voyage dont on ne savait pas l'issue à l'époque. Ces cellules, on ne pense jamais à soi en termes de cellules. Or, nous sommes un amas de cellules qui travaillent, qui travaillent bien en général, qui parfois a des couacs. Et tout d'un coup, vous êtes devenue consciente que ces cellules étaient là, il fallait les encourager.
Oui, tout à coup, c'est-à-dire que j'ai découvert moi-même la dernière récidive, la dernière tumeur qui s'est développée, et donc je la tenais dans mes mains, puis je me suis...
Vous visualisiez ?
Non, je la tenais parce que c'était une boule...
À travers le corps.
Voilà, assez grosse, hein, comme un petit pamplemousse, comme ça. Et donc, ouais, je pouvais... J'avais décidé de masser ma cicatrice, puis c'est comme ça que je l'ai palpée à l'intérieur. Et là, je me suis intéressée du coup à ressentir quelle sensation ça me donnait cette masse cancéreuse. Je pensais que ça allait me donner des éclairs, que ça allait piquer dans les doigts. Il se passait rien du tout. Alors donc, j'essayais de m'approcher de plus en plus près avec mon ressenti. Et plus je m'approchais, plus il me semblait qu'elle se cachait, qu'elle descendait ou qu'elle voulait pas exister. Puis j'essayais d'écouter ce qu'elle voulait dire. Puis elle disait « Oh, mais on veut pas être là ». Enfin, c'est ce que je ressentais comme ça. Ça m'a profondément touchée.
Donc vous avez ressenti le désarroi de ces cellules qui tournaient mal.
Oui, oui. Ouais, quelque chose comme ça.
Vous n'aviez rien fumé, rien bu.
L'air de la chambre où il y avait une moquette.
Alors... qu'est-ce qui s'est passé la première fois ? Parce que là, on parle de la fin d'un parcours. Mais ce parcours a commencé un jour, on vous a dit, voilà, il faut vous opérer. On ne sait pas complètement ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Mais vraiment, là, tout de suite.
Alors, je pensais que une fois l'opération passée, tout deviendrait normal.
Mais vous aviez pas eu peur de déjà qu'on vous dise que vous avez un cancer, parce que le mot, il est comme un mantra négatif. Mm-hmm. On vous dit ça, vous êtes déjà à moitié malade.
Mm-hmm. Alors, quand ils ont découvert la première tumeur, ils m'ont pris à part tout de suite. Ils étaient très choqués, hein, parce qu'elle était déjà comme un pamplemousse, elle aussi. Et ils m'ont pris à part, puis ils m'ont dit, vous savez, 97% des tumeurs à cet endroit-là, c'est non cancéreux. Donc, vous inquiétez pas. Alors, j'ai suivi ce conseil, au fond. Puis, je pensais que j'allais être... c'était un coup dur, momentané, mais qu'après l'opération, tout serait OK.
On va dire que vous connaissiez les soins médicaux. Enfin, vous étiez infirmière.
Oui, mais je me suis pas renseignée. J'ai pas voulu prendre ça comme une infirmière qui va chercher des informations. J'ai pas fait ça. J'ai laissé les médecins faire leur job.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez ressenti la peur?
Alors, quand j'ai fait la première récidive, à ce moment-là, je me suis sentie cuite. J'ai senti que c'était que, parce qu'au début, j'étais sûre que j'allais guérir, mais là, quand j'ai récidivé, je me sentais condamnée. Et après, les médecins m'ont effectivement dit, madame, on peut plus vous guérir. Donc, ça confirmait ce que je ressentais. Et là, bien sûr, j'ai eu peur de mourir. Ben, je pensais que j'allais probablement mourir.
Vous aviez quel âge?
40, presque 41, je crois. Mm-hmm. Ouais.
Vous racontez aussi dans ce parcours, dans ce livre « Cellules, je vous aime », l'importance des autres. C'est-à-dire qu'il y a parfois la question, mais pourtant tu te nourrissais bien, tu faisais du sport, parce que tous on s'imagine qu'en vivant bien, en faisant ci, en faisant ça, on va éviter. Et vous étiez de ces personnes probablement qui prenaient soin encore plus ou moins de sa santé. Et vous dites à un certain moment, mais j'avais le sentiment de, qu'est-ce que j'avais fait faux? Comme s'il y avait quelque chose qu'on a fait faux, une sorte de culpabilité.
Oui, c'est comme si on reçoit un message du, je sais pas très bien comment dire, de l'univers, enfin de quelque chose qui nous dépasse, qui nous dit là ça va pas, oui. t'es en disharmonie.
Et mais donc, ça peut aussi arriver, c'est clair que la maladie est une forme de disharmonie, mais ça peut arriver sans qu'on ait rien fait de des choses dont on sait
absolument.
Qu'on prend des risques.
Absolument. La disharmonie, elle est à des niveaux qui sont, je pense, pas encore conscients. Et dans ce sens-là, la maladie, elle vient nous apporter, comment dire, nous permettre de prendre conscience de quelque chose qui, jusque-là, était encore inconnu à notre esprit courant de tous les jours.
Donc, pour vous, c'est pas le hasard, c'est pas ça me tombe dessus, c'est pas, il y a un sens. Ou en tout cas, vous avez trouvé un sens.
Oui, alors pour moi, c'était important. De chercher comme ça, c'était là ce que je pouvais faire pour me donner le plus de chance, pour être le plus à l'aise, quoi. C'est un réflexe au fond, j'ai besoin de donner du sens. Aux choses.
Mais ouais. À un certain moment, vous avez réussi à échapper à ce sentiment de culpabilité, parce qu'on n'est pas forcément coupable de quelque chose quand la maladie
voilà.
arrive.
Alors au début, c'est ça, hein, on pense, forcément il y avait toujours la culpabilité derrière.
Oui.
Derrière toutes les explications que je pouvais donner, il y avait la culpabilité. Quelque chose qui n'aurait pas été fait comme il faut. Puis à un moment donné, j'ai lâché cette façon de voir le pourquoi, à cause de quoi. Parce que je me suis souvenu qu'en grec, pourquoi ça se dit vers quoi.
Et pour aller où.
Voilà, pour aller où. Et à ce moment-là, quand j'ai pensé vers quoi le cancer, pour aller où, c'était évident la réponse, c'était pour être plus vivante. Donc ça m'a permis de dépasser le sentiment d'avoir fait quelque chose de faux, puis d'accueillir l'épreuve en me laissant transformer, même si c'est désagréable, bien sûr.
Mais avec quand même au départ l'incertitude de l'issue.
Alors, complètement, hein, même je pensais que j'allais mourir. J'ai vécu à peu près 18 mois en pensant que j'allais mourir. J'avais pas fermé la porte de la survie parce qu'on sait jamais ce qui peut pas, ce qui peut se passer.
Puis on espère.
Oui. Mais me préparer, c'est une chose qui m'a aidée à vivre. Curieusement, hein, on croit que se préparer à se mourir, c'est comme si on invitait la mort dans notre vie. Mais c'est l'inverse, au contraire. Tout ce que j'ai fait pour m'aider à calmer mes angoisses, à préparer la vie, par exemple, enfin dans ce que je pouvais, de ma famille après ma mort éventuelle, mm-hmm. des choses comme ça, ou bien à me préparer moi à faire le passage. Toutes ces choses-là m'ont immensément aidé à vivre. Et se préparer à mourir, au fond, c'est se préparer à vivre.
Dans les différentes expériences comme ça que vous faites avec vous-même, vous vous écrivez une lettre. Hein, vous vous écrivez, ça, j'ai noté ici la page 173. C'est quoi cette lettre? Vous oui, vous parlez ça, comme si vous étiez une autre.
Oui, ça, c'est venu tout seul, hein. C'était, à travers ces récidives successives, c'est comme si j'étais un petit peu au bout de moi-même. Mais quand je suis arrivée tout à fait au bout de ce moi que je connaissais, il m'est venu spontanément de m'écrire une lettre, comme si je m'écrivais une lettre depuis la hauteur de mon âme ou depuis quelque chose de plus grand que cette personne incarnée.
Et que cette
là,
situation.
Comme ça, ouais. Mmh. Et dans cette lettre, elle est belle d'ailleurs, quand je la relis des fois. Elle est pleine d'espoir, elle est pleine de tendresse vis-à-vis de moi-même aussi.
Et la bienveillance aussi.
De bienveillance,
envers soi-même,
oui. Ouais. Et puis, d'honneur, elle prend en compte les efforts que j'ai faits. Je trouve que c'est une belle lettre de consolation et qui sonne juste aussi.
Alors, j'ai parcouru ce livre avec le sentiment qu'effectivement, si on a une maladie ou comme ça, il aide parce qu'il y a un côté témoignage de quelqu'un qui l'a traversé. Mais je trouve que c'est un livre qui peut aider tout simplement à vivre différemment. Vous l'avez pas voulu, ce livre, seulement comme un témoignage. Vous voulez transmettre autre chose.
Alors, ça se passe un peu comme ça, hein. En fait, je peux pas dire que j'ai voulu quelque chose, à part le fait que je voulais que tout ce que j'écrivais, ce soit le plus proche de la réalité que j'avais vécue. Je voulais travestir le moins possible. Forcément, on travestit toujours un peu, mais j'ai beaucoup retravaillé pour enlever à chaque fois que j'ai vu que j'avais travesti des choses. Et ça ressort, les personnes qui le lisent me disent « Oui, c'est un livre pour les bien portants. »
Aussi, aussi.
C'est un livre pour apprendre à vivre, c'est un livre pour avancer dans la vie. Pour un guide de transformation, quelqu'un m'a dit, j'ai trouvé ça très beau.
Alors effectivement, à la fin, vous donnez des conseils, un vademécum pour la guérison, qui était pour vous la guérison physique d'une maladie grave, mais qui peut être pour nous chacun se guérir de situations difficiles. Alors vous dites, j'ai recopié, restez au centre, respire, ne te laisse pas emporter par le drame qui se dessine. Ça, c'est pas seulement pour une maladie, c'est aussi pour une séparation, c'est aussi pour un chômage, c'est aussi pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voulez dire, reste au centre? Parce qu'on est complètement balancé de droite et de gauche.
Reste au centre, c'est la personne, la présence intérieure qui est là, puis qui se rend compte que je suis en train de respirer. En fait, c'est ça. Hein. Donc, au fond, je pense que c'est le meilleur conseil, le conseil ultime, c'est de respirer, d'être là.
On va voir tout au long de votre parcours que la respiration, c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous avez travaillé et vous continuez de travailler de différentes façons. Et c'est effectivement la chose qu'on a, quand on est vivant, on respire, et quand on ne l'est plus, on respire plus. Donc c'est vraiment sur cette pierre, je peux bâtir mon église. Vous dites aussi, cultiver la guérison. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde cultive la guérison, mais peut-être pas. Quand vous dites ça, vous voulez dire ne pas devenir négatif, ne pas se laisser succomber dans la peur complètement?
Oui, c'est peut-être cultiver toutes les bonnes choses, les histoires de personnes qu'on guérit. Ça, c'était quelque chose que je cultivais. Les images qui m'apaisent, toutes les choses qui me mettent dans un état où je me sens tranquille, calme. Ça, c'est cultiver la guérison.
Avant, vous étiez une personne méditative comme ça?
J'ai rencontré la méditation pendant ces années de maladie.
Vous étiez une agitée comme nous tous?
J'ai toujours été une personne qui s'intéresse à la conscience, à la vie intérieure. Donc là, par exemple, je faisais une psychanalyse à l'époque où le diagnostic s'est déclaré. Donc oui, la vie intérieure pour moi, ça a été une motivation très importante. C'est la raison pour laquelle j'étais infirmière en soins palliatifs.
Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec vous, Sylvie Staub. Donc, vous signez « Cellule, je vous aime », récit d'une guérison inattendue. C'est chez Cabedita avec une introduction de Rosette Poletti. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur La Première.
Entre nous soit dit, 20h, 21h.
Bonheur, tu nous fais souffrir, c'est contradictoire. Bonheur, tu nous fais souffrir, la peur que tu pars. Tu appartiens à ces choses volatiles, comme les bouquets de roses, tu te fanes vite. C'est à croire qu'on ne te mérite pas. L'homme n'est pas fait pour toi. Bonheur, tu aimes repartir à peine à la mare. Je comprends qu'on préfère te fuir comme chantait Gainsbourg, comme l'odeur de la mer nourrisson. Comme l'odeur de la mer, moussaillon, on te respire comme ces choses disparues. Parfum des paradis perdus. Fais souffrir, d'accord, c'est bizarre. Bonheur, tu nous fais souffrir, la peur que tu te pars. Tu appartiens à ces choses volatiles, à ces choses qui ne tiennent. C'est à croire qu'on ne te mérite pas. L'homme n'est pas fait pour toi. Je tiendrai bien la barre. Bonheur, bonheur, mon souffle dans tes voiles. Ne pars pas, bonheur, bonheur, non, ne te pars pas, mon beau voilier. Je tiendrai bien la barre. Bonheur, bonheur, mon souffle dans tes voiles. Ne pars pas, bonheur, bonheur, non, ne te pars pas, mon beau voilier. Je tiendrai bien la barre. Bonheur, bonheur, mon souffle dans tes voiles.
Claude Nougaro, sur la première où nous sommes en compagnie de Sylvie Staub, vous nous avez proposé ce morceau de Nougaro. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ?
J'étais très touchée par ce morceau quand je l'ai entendu la première fois. En fait, il l'a écrit donc au moment où il savait qu'il allait mourir. Et dans cette musique, on sent bien ce regret de quitter la vie et cet amour de la vie.
Et ça vous a inspiré, vous.
Ouais, ça j'ai trouvé vraiment très touchant parce qu'il y a peu de musique, peu de composition là autour de ce moment quand on se prépare à quitter. Il y a Brel bien sûr, mais c'est plus intense, plus là c'est plus rond, il y a plus
il y a presque une légèreté.
Oui, aussi ouais. Il y a toute cette nostalgie et cette beauté immense de la vie. Qui est célébré, que je trouve magnifique.
Eh bien, mesdames et messieurs, au moment où nous enregistrons cette émission, nous nous trouvons exactement en face de l'église Saint-François.
Et si nous y sommes venus, c'est pour vous faire participer à cette ambiance de carnaval qui, depuis ce matin, à Lausanne même, règne à tous les échelons et dans toutes les rues.
Oui, nos reporters se sont disséminés dans la Suisse romande. Ils nous ont passé par Monthey, par Martigny, par Fribourg, par Bulle. Mais je crois qu'en fait, c'est nous qui avons la bonne part, puisque jamais, je crois, de mémoire de Radio Reporter, nous n'avons vu un carnaval si animé.
Il faut dire que nous jouons ici à Lausanne sur le velours, puisque la ville compte quand même quelque chose comme 120 000 habitants, et l'on peut dire sans risque de se tromper que ces 120 000 habitants sont autant de participants aux réjouissances de carnaval.
Parlons peut-être des chars qui sont en train de défiler devant nous en ce moment. Et là, je dois dire qu'on n'a rien négligé pour faire luxueux même. On en compte des centaines au bas mot. Des centaines qui se pressent les uns derrière les autres. Il y a les petits d'abord, les petits chars de...
Oui. À quatre places environ, et je voudrais préciser simplement ceci, c'est que nous avons le sentiment que le cortège a dû démarrer à midi précise, car c'est sur le coup du midi que tous ces chars dont vous parlez ont commencé à se déplacer.
Et alors c'est très drôle parce que dans ces petits chars ne prennent souvent place qu'une seule personne qui tient une espèce de volant circulaire et qui, je veux dire, alors, est déguisée en général en monstre effrayant, enfin les yeux exorbités, les grimaces incroyables.
Alors c'est un petit reportage du carnaval à Lausanne des années 70. Est-ce que vous alliez enfant au carnaval? C'était quelque chose qui vous plaisait?
Alors, malheureusement pas, ça m'aurait certainement plu. Hein. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce genre de choses, c'était un protestantisme sec. Et donc, non, j'ai pas connu cette...
Réjouissance.
C'est réjouissant, c'est féerique. Hein.
Alors, dans quelle famille êtes-vous arrivée au monde? On comprend une famille protestante, mais encore, que faisait votre maman? Que vous a inspiré votre papa?
Alors, ma mère, elle était à la maison, puis elle s'occupait de vous, de toute sa petite... on était quatre enfants, j'étais la troisième. Mm-hmm. Voilà.
Qu'est-ce qui vous reste d'elle? Des bons desserts? Des jeux?
Les repas du dimanche à midi, le dimanche matin, elle se levait, puis elle faisait cuire le rôti avant qu'on aille à l'église, parce qu'on est toute la famille allait à l'église. Et donc, on se
à
levait.
À l'église Saint-François ou?
Non, à Chailly.
D'accord.
Voilà. Et donc, on se levait et on déjeunait avec l'odeur de la viande qui rôtissait, puis qu'allait après mijoter pendant tout le temps qu'on était à l'église. Mmh, puis elle était ravie.
C'était magnifique. Pendant que vous étiez à l'église, vous pensiez aux effluves.
Alors ça...
Et votre père, que faisait-il? Quel univers professionnel?
Mon père, il était juriste de formation, mais en fait, il avait lancé... il n'a jamais exercé dans ce domaine-là. Il a lancé une boîte de publicité marketing.
C'était assez nouveau à l'époque.
Ouais. Donc, il est très dégourdi, on va dire, comme ça, entrepreneur...
Et dans la fratrie, quel était votre rôle, votre place? Vous étiez plutôt l'enfant rigolo, ou l'enfant mélancolique, ou l'enfant un peu poète?
J'étais la seule fille, donc c'était déjà une place pas simple, oui, hein, on va oui. dire. Après...
Une fille casse-cou ou une fille au contraire un peu cachée, un peu secrète?
Je voulais devenir un garçon, donc j'étais casse-cou.
Vous vouliez devenir garçon. Donc ça veut dire les cabanes dans les arbres, oui, ça veut dire jouer avec eux et leurs copains.
Oui, sauter par-dessus les barrières. Voilà, je faisais tout comme un garçon, quoi. Et si par hasard le facteur, je me souviens une fois, j'avais répondu au facteur, il m'avait pris pour un garçon. Voilà, c'était le
cheveux courts, vous étiez cheveux courts.
Oui, c'était le sommet de la consécration.
Mais vous avez dit aussi tout à l'heure que vous étiez passionné par la conscience. Vers quel âge ça a commencé? On sait qu'il y a des enfants de 3-4 ans qui sont très philosophes et très observateurs. Mais est-ce que chez vous, c'est venu un peu plus tard?
J'ai des souvenirs où je me suis rendu compte, par exemple vers l'âge de 2 ans et quelques, où je me rendais compte qu'il y avait un désaccord entre ce que les gens me disaient et la réalité. Je me rendais compte que...
On vous racontait des bobards.
Voilà. Donc, il y avait déjà une certaine conscience qui était présente.
Toute petite,
voilà,
comme ça.
Toute petite, ouais.
Donc, très bonne observatrice.
Oui, et puis à me rendre compte de ce qui se passait à l'intérieur, que ça ne correspondait pas, enfin que je m'étais fait rouler, par exemple. Ça, je me rappelle bien, parce que mon frère, il m'en faisait voir, forcément. et puis, quand je m'endormais, c'était un moment très particulier, où j'avais l'impression que mon esprit s'élargissait. Et puis, il se passait plein de choses. Soit j'entendais des musiques... Soit alors j'aimais beaucoup tout ce qui était physique, hein, donc j'imaginais que je faisais des je sais pas comment ça s'appelle, où ils font aux agrès des culbutes, où ils courent, ils arrivent à sauter sur leurs mains, sur leurs pieds, sur leurs mains, des choses comme ça. Et puis une fois, en observant, j'avais observé que j'avais soif. Et donc que la sensation de la soif était arrivée à mon esprit, que ça s'était transformé en une image de je me voyais boire, puis qu'enfin après le mot était venu j'ai soif. Donc j'ai observé toutes ces étapes pour prendre conscience des choses. Ouais, donc c'était naturel, on va dire.
Petite.
Oui, ça c'était j'avais 6-7 ans. Hein. Ouais. Donc, je me suis toujours intéressée à ça. Je pense que c'est une qualité comme ça qui m'a été donnée dès le départ.
Vous communiquiez sur ces sensations-là avec vos parents, avec vos frères?
Alors, pas trop, non.
Vous aviez peur qu'ils se disent elle est un peu spéciale?
Ouais, c'est-à-dire que l'environnement dans la famille, c'était quand même chaud. Hein, donc,
ça veut dire chaud, un peu sévère ou...
Sévère, et puis après, c'était pas toujours très sécure. Donc, moi, j'avais bien assez de travail à tâcher de survivre, on pourrait dire, au milieu de ce monde assez dur. Donc, c'était
parce
pas...
que beaucoup de garçons, parce que...
Oui, ouais. Et puis bon, mes parents, vous savez, à l'époque, hein, ils pensaient que c'était bien d'enfermer les enfants, enfin, des choses
pour
comme ça.
Pour les punitions, vous voulez dire. Voilà. Pour les punir, par exemple. Ouais, ouais. Au lit avec une pomme.
Donc, voilà, oui.
Et quelle adolescente avez-vous été un peu rebelle par rapport à tout ce que vous venez de décrire? On peut imaginer une punk révoltée.
Ouais, il y avait de la rébellion, mais il y avait aussi beaucoup de mal-être. Donc en fait, c'est plutôt le mal-être que je manifestais plus que la... J'étais pas tellement dans... Par exemple, j'allais pas manifester des choses comme ça. J'étais une adolescente assez seule. Et puis j'avais une souffrance intérieure au fond.
Mais vous faisiez des études, vous alliez au gymnase
oui.
ou à l'école.
Oui.
Donc ça c'était quelque chose que vous acceptiez.
Oui, ça
c'était bien pour vous.
Ça se passait parce que j'avais
pas en rupture, parce qu'il y a aussi des adolescents qui se mettent en rupture.
Non, alors moi je me suis pas mis en rupture comme ça avec le système.
Vous l'avez fait à votre façon.
Alors ouais.
Vous êtes partie à quel âge de chez vous?
Alors assez tôt, hein, à 20 ans, mm-hmm. comme ça, ce qui était quand même assez tôt.
Pour voyager, pour vivre ailleurs. Une expérience difficile.
Voilà, oui.
Mais c'était, vous êtes partie, ça veut dire que vous avez échappé à cet univers un peu difficile, inconfortable de l'enfance.
Oui, ouais, et à ce moment-là, du côté de mes parents, en plus de ça, mon père avait vécu une faillite, donc c'était un peu le bateau qui sombrait. Mm-hmm. Ouais, je suis partie un petit peu comme si j'avais sauté avant que le bateau sombre, quoi.
Cellule, je vous aime, c'est le titre de votre ouvrage. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est signé Sylvie Staub.
Dream. Did you forget how to dream? So angry it makes you want to scream. Think you're voiceless and no one can hear you. But I am listening. Breathe. Allow yourself time to grieve. The sound of your breath is relief. Think it's useless and no one can hear you. But I am listening. It's never deepest part of your heart. There's always a tiny spark. The storm can blow out. Here, in the center of chaos and fear, above the noise and sirens, I'm a leech. Like a friendly ghost, always near you. Someone's listening. It's never dark.
Le groupe Cocoon sur la première, où nous sommes en compagnie de Sylvie Staub. Pourquoi vous avez choisi ce morceau, Sylvie?
Ah, ce morceau, j'aime bien le mettre des fois quand je rentre du travail le soir.
Plus enjoué.
Pour danser. Ouais, bon, c'est étincelle, hein. Il dit qu'il y a toujours une petite étincelle qui reste là à l'intérieur. Puis au fond, C'est cette étincelle qui m'a conduite toute ma vie. Puis j'aime bien pouvoir danser là-dessus. Puis j'aime bien danser. C'est plus récent dans ma vie. C'est une ressource que j'utilise maintenant très, très souvent, plusieurs fois par semaine, chez moi toute seule ou bien avec des amis, à la biodance. Je trouve ça magnifique. C'est une manière d'être vivant, d'être joyeux.
Le corps.
Ouais, ouais.
Et ce morceau, la première fois que vous l'avez entendu, c'est récent ou
oui,
c'est...
oui, parce qu'il est assez récent. Je l'ai entendu sur vos ondes, dans la voiture, et je me suis mise à danser dans la voiture, enfin ce qu'on peut quand on conduit.
Les soins palliatifs ne sont pas les soins terminaux, et qu'ils interviennent lorsqu'une maladie grave avec un pronostic défavorable est déclarée. Donc on est loin de la toute dernière fin de vie. Et si je dois définir les soins palliatifs, j'utiliserai deux mots, soulager et accompagner. Soulager, d'abord la souffrance de la personne malade, quel que soit son âge et le diagnostic de sa maladie, pour lui permettre de rester vivante jusqu'au bout de sa vie. Et également pour ses proches, d'avoir une approche globale qui inclut également les proches. C'est la raison d'être des soins palliatifs. Même si la guérison n'est plus possible, on ne parle pas de guérison, mais tout reste à faire pour avoir une bonne qualité de vie jusqu'au bout. Et puis accompagner, c'est offrir une présence à la personne malade et à ses proches jusqu'au bout de la vie. Et après le décès, on propose un suivi aux proches. C'est un défi exigeant et passionnant que les équipes de soins palliatifs relèvent au quotidien. Et les bénévoles font partie du réseau de soins palliatifs.
Peut-être vous avez reconnu cette voix, c'est une formatrice des bénévoles en soins palliatifs, c'est Madame Christine Burki, je trouve qu'elle définit bien. Il y a un aspect des soins palliatifs qui résonne dans nos têtes, c'est toujours proche de la mort, elle dit le contraire. Vous avez été infirmière en soins palliatifs, déjà pourquoi ce choix?
Alors oui, c'était au tout début, l'arrivée des soins palliatifs en Suisse. Ce choix parce que... De nouveau, je me sentais être en lien avec l'essentiel. On n'était pas en train de discuter de petites choses superficielles de la vie. On était en lien avec l'essentiel, avec ce qu'il y a au cœur des gens. C'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui me nourrit au fond. J'avais fait une très belle connexion avec Paul Beck, qui à l'époque, avec sa femme, avait lancé le premier projet pilote de soins palliatifs à Rive-Neuve. J'avais fait partie de ce premier projet.
Vous aviez quel âge quand vous avez commencé?
Qu'est-ce qu'on va dire? C'était la fin de ma formation, 24 ans, comme ça.
D'accord. Donc, infirmière à la base et ensuite spécialisée dans les soins palliatifs.
Alors, il n'y avait pas encore spécialisation à l'époque, mais c'est là que...
C'était un essai, en fait, ça commençait.
Oui, c'était un projet pilote.
D'accord.
Alors, il y avait un côté génial, parce que c'était... les infirmières avaient beaucoup de responsabilités. Le médecin venait deux fois par semaine, donc nous, on pouvait vraiment... déployer nos compétences comme ça avec pas mal de liberté, de confiance qui nous était donnée. C'était très satisfaisant comme travail.
Vous étiez très jeune quand même, à 24 ans, tout le monde ne côtoie pas volontiers le risque de fin de vie.
Alors, il y a quelques personnes comme quand ça même. Qui s'y intéressent, parce que j'avais des collègues qui avaient mon âge aussi.
D'accord. Et au début, racontez-moi le début, donc des patients sont arrivés.
Oui.
Vous aviez votre formation d'infirmière, mais après vous essayez de trouver ce langage-là, qui est le langage des soins palliatifs, qui est différent.
Alors à l'époque, on disait que pour commencer les soins palliatifs, il fallait comprendre, il fallait renoncer à guérir. Et ça maintenant, je pense qu'on est revenu là-dessus.
D'abord parce qu'on peut guérir par miracle, on va le
voilà,
voir.
Voilà, déjà ça. Alors ça, c'est la principale, je dirais, le principal biais que j'avais à l'époque. C'était que j'étais sûre que les gens allaient mourir. On nous avait formés comme ça, je me rendais pas compte que c'était une erreur d'avoir fermé la porte.
De le projeter comme ça.
De le projeter comme
fort,
ça. Ouais, c'est vraiment important et c'est une des choses que j'aimerais répéter maintenant très souvent, c'est que voilà, garder la porte ouverte, c'est vraiment une nécessité. C'est un respect de la vie, un respect du vivant, quoi.
Et donc, pendant combien de temps vous avez été au soins palliatifs? Presque toute votre carrière d'infirmière?
À peu près, oui. Avec un peu des allées venues. Puis j'avais arrêté de travailler aussi à un moment donné pour m'occuper de mes enfants. Enfin, mais je suis toujours revenue là. C'était vraiment ce qui m'appelait le plus profondément, on va dire.
Est-ce qu'il y a quelque chose de ce que vous avez vécu comme soignante en soins palliatifs qui vous a aidé quand vous avez dû vous-même vous soigner de quelque chose qui était grave, quoi?
Alors, c'est marrant parce que vous disiez qu'on allait revenir sur la respiration. Et en fait, quand je repensais à l'époque où j'étais malade, ce que j'avais appris avec les personnes qui étaient en fin de vie, comment ces gens se préparaient et puis faisaient le passage. Alors, ce que j'ai appris, c'est en tant que personne qui accompagne, d'être là. J'ai appris la présence, on va dire. Rien faire, juste être là. C'était les premières fois que j'ai expérimenté ça. Et le pouvoir que ça a d'être là, présente, avec bienveillance et en permettant que la personne s'en aille, au fond. Hein. Et ça donnait lieu à des moments magnifiques, à des moments pleins de grâce. Alors, la présence. Et puis, ce qui m'était venu, c'est que au fond, ce que j'ai appris aussi, c'était la gratuité. Il y avait des gens qui regrettaient, qui comprenaient pas, qu'ils avaient donné beaucoup d'eux-mêmes pendant leur vie, et puis que là, ils étaient seuls, abandonnés tous. Enfin, c'était leur impression. Puis je me suis dit, quand on fait les choses, alors mieux vaut les faire gratuitement, sans attendre quelque chose en retour, parce que sinon, ça peut être désagréable après, en fin de vie.
Donc, les faire pour les faire, parce qu'on a envie à un certain moment, qu'on a la force de le faire et l'intérêt, mais pas dans un esprit donnant-donnant.
Pas dans un esprit de récupérer quelque chose, de se protéger de quelque chose dans l'avenir.
Et puis, on ne peut pas se protéger.
J'ai compris, mais on cherche toujours.
Pour nous. C'est mieux vaut aller petit bout par petit bout et que ce soit toujours accompli, chaque chose qu'on fait.
Oui, ça c'est une grande sagesse que vous avez, je vous félicite. À l'époque, je l'avais pas, en ce qui me concerne. Je pensais que je pouvais encore me protéger de certaines choses. C'est, je dirais, le cancer qui m'a appris que je peux pas me protéger et puis que tout est contenu dans l'instant présent, au fond. Autant les réponses que les difficultés qui se présentent. Mais les ressources et les réponses pour faire face aux difficultés, elles sont aussi là dans l'instant. Donc effectivement, ça sert à rien d'essayer de se protéger. Mais l'esprit rationnel, lui, il croit toujours qu'il peut se protéger.
Vous dites à un certain moment dans le livre ce paradoxe que vous avez été vous-même infirmière qui accueillait les gens qui n'avaient plus de perspective de guérison avérée, parce certains guérissent quand même, et de vous retrouver à l'autre place. Quelle patiente avez-vous été?
Alors j'ai assez vite lâché ma posture d'ancienne infirmière. Parce que je savais que ça stresse le personnel de savoir qu'ils ont une collègue qui en fait est sur le lit du malade. Et puis forcément, il y a des choses qui sont pas faites parfaitement. Et puis donc ça, si en tant que soignant, on les pointe, ça met tout le monde mal à l'aise. Alors j'ai mis ça de côté. Puis je me suis dit, allez, maintenant je deviens une patiente. Et puis je m'occupe de mon job de patiente.
Et vous avez été vous-même en soins palliatifs ou vous avez en fait eu que le chemin de guérison avec les chimios, la médecine officielle et tout ça?
J'aurais pu aller, hein, parce que mon ancien patron m'invitait, il me disait « viens te reposer chez nous », mais je voulais pas. Donc, j'ai pas fait l'expérience.
Est-ce que vous, maintenant, vous avez un regard critique par rapport à la médecine? Comme parfois des personnes trouvent qu'on a exagéré dans la chimio, etc. Est-ce que vous avez ce regard ou finalement vous avez un regard bienveillant pour ces gens qui se battent tous les jours contre la mort, d'une certaine manière?
Alors, le regard que je porte sur la médecine, c'est que c'est un grand système très conditionné, extrêmement conditionné. Et qui du coup rate parfois rate l'instant présent, ça c'est sûr. Et dans le conditionnement, il y a l'idée que d'être malade c'est un drame, que mourir c'est un drame aussi. Et donc tout ça dessert vraiment la guérison.
C'est un effet comme un effet nocebo.
Oui, c'est un effet.
Au lieu de placebo, nocebo, qui peut nuire.
Donc en soi, cette posture-là de la médecine, cette crainte de la maladie et de la mort qui est à la base du système médical, elle est nocive. Pour considérer la maladie comme étant un chemin d'évolution que la vie est en train de prendre, ce serait probablement une manière d'aller susciter nos ressources d'une façon beaucoup plus efficace.
Je pense que c'est à cause de la peur, parce qu'autant les patients que les médecins Les médecins aussi ont peur de la maladie, et surtout des maladies qu'on ne guérit pas encore, comme le cancer. En fait, il y a deux peurs qui se rencontrent.
Peut-être que les médecins sont ceux qui ont le plus peur. Hein. Peut-être que leur motivation, leur vocation à devenir médecin, elle est basée sur cette peur de la mort. Ce serait fort probable. Donc du coup, ils auraient une peur encore plus grande que celle du patient.
Oui, parce qu'en plus, ils doivent guérir. En plus, ils ont la responsabilité de résoudre le problème.
C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand on a découvert la première tumeur. En fait, j'ai été au scanner et je devais attendre les résultats. J'attendais pas dans la bonne salle d'attente. Ils m'ont cherché partout. Ils me trouvaient pas. Puis moi, j'attendais patiemment jusqu'à ce que je me dise « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Puis j'ai été voir. Puis là, j'ai compris que j'étais pas au bon endroit. Puis j'ai été les rejoindre. Et là, ils m'ont dit « Ah, mais on a cru que vous étiez partis. » Ils avaient même téléphoné chez moi pour voir si j'avais fichu le camp. Ils avaient une peur bien plus grande que la mienne, en réalité.
Bach sur la première, où nous sommes en compagnie de Sylvie Staub.
La méditation, c'est un mystère aussi de beaucoup de gens, mais en réalité, c'est quelque chose d'assez simple. On pourrait dire que c'est un entraînement de l'esprit. C'est s'arrêter d'être dans l'action ou dans la distraction, se mettre un peu à l'écart, fermer les yeux, se centrer sur ce qui se passe en nous et observer la manière dont nous respirons, la manière dont notre corps se envoie des sensations, la manière dont nos pensées circulent. Et au fond, cet entraînement de l'esprit, c'est ce qu'on appelle méditation. Alors, il y a beaucoup de méditations différentes, hein. C'est un peu comme quand on parle de psychothérapie, c'est des pratiques très très variées, mais en gros, la méditation, c'est toutes les fois où nous nous arrêtons d'agir pour ressentir, observer le fonctionnement de notre esprit.
Est-ce que par hasard, vous avez reconnu cette voix ?
Oui, bien sûr. Alors là, c'était facile.
Christophe André.
Christophe André.
Comment la méditation, au début, est entrée dans votre vie ? La première fois ?
Elle est entrée d'un seul coup, parce que j'avais voulu aller voir une conférence de Sogyal Rinpoche à Beaulieu,
Donc Rinpoche, de bouddhisme tibétain, voilà. Qui était à l'époque très à la mode, à l'époque, il y a 20 ans et plus. Non, 20 ans en tout cas, oui.
C'était pendant mes années de maladie, et j'avais été un peu à bout de force d'ailleurs. J'avais été passionnée par tout ce qu'il avait raconté. Enfin, j'avais pas vu le temps passer. Et le lendemain, je me suis assise, puis j'ai commencé à méditer. En fait, je savais même pas très bien ce que je faisais. Je peux pas très bien vous dire non plus. Mais je me suis vite rendu compte que ça me faisait un bien fou. Et,
donc assis sur un coussin.
Voilà. Et puis pendant 15 minutes, comme ça.
Fixé sur la respiration, un peu.
Oui, ou juste sans rien faire, je crois.
Les yeux fermés, quand
même. Oui, j'avais les yeux fermés. Ouais. Et très vite, j'ai commencé à faire aussi ça le soir, 15 minutes avant de souper. Et c'est devenu un outil extraordinaire pour me poser, pour être en équilibre. C'est-à-dire, du coup, j'avais une espèce dès que je sentais que je perdais l'équilibre parce que tout à coup, j'avais un grand chagrin ou bien une angoisse qui venait vis-à-vis de la situation dans laquelle j'étais, le fait d'aller méditer, ça me permettait de retrouver le centre, retrouver l'équilibre. C'était extraordinaire.
Et ça, vous l'avez fait un peu intuitivement au début. Oui. Vous n'avez pas pris des cours de méditation.
Voilà, j'ai fait. Tout à coup, je suis tombée dedans d'un jour à l'autre. C'était assez surprenant. Hein.
Mais vous aviez un coussin de méditation chez vous?
Non.
C'est incroyable. Les gens en général cherchent, soit sur Internet, maintenant il y a plein d'applications comme ça. Vous, c'était naturel.
Voilà, je me suis créé un endroit pour ça aussi. Alors, est-ce qu'il avait dit ça? Peut-être, j'en sais rien. J'ai aucun souvenir de ce qu'il avait dit, sauf une très belle phrase du Bouddha qui disait « Ramenez à la maison cet esprit battu et fouetté par les vents du samsara ». Cette forme, je dis, ah oui, ben c'est ça, mon esprit est battu et fouetté. Je vais le ramener au calme. Quoi.
C'est très beau comme image, oui. J'espère que ceux qui nous écoutent sont touchés par la facilité, finalement, de s'y mettre. Après, pendant qu'on y est, parfois, il y a des tas de pensées qui tournent, mais c'est quand même une pratique pour prendre soin de soi, en fait.
Oui, ça veut dire soigner, certaines traductions, en tout cas. Et c'est ça, on en revient à cette idée d'être là. Juste être attentif, comme le décrit Christophe André. Regarder ce qui se passe à l'intérieur. Quoi qu'il se passe, c'est OK. Et on continue de respirer. Et quand on est dans cette posture-là, on fait toutes les choses. On se rend compte qu'elles arrivent, elles passent et elles disparaissent. Ça se transforme. C'est comme si on arrosait peut-être notre vie intérieure. Puis du coup, elle peut se développer selon sa propre spontanéité intérieure. On n'est plus là pour nous forcer à grandir dans un sens ou dans un autre, mais juste pour être une sorte de soleil qui accueille ce qui se passe dedans. Et notre attention, c'est de l'énergie. Et donc, on se nourrit nous-mêmes avec notre propre énergie en accueillant tout ça.
Et pour plus tard, vous avez eu envie de vous former, puisque vous avez, d'après ce que j'ai compris, rencontré Christophe André.
Oui, d'ailleurs, je me suis formée avec lui.
Donc, dans une formation pour enseigner aux autres.
Pour enseigner aux autres le programme de pleine conscience de 8 semaines. Hein. Donc ça, c'est arrivé bien plus tard, au début des années 2010. Là, c'était en 2011 que j'ai vu pour la première fois un article sur la pleine conscience ici, dans le journal. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux apprendre parce que j'aimerais pouvoir transmettre ce que la méditation m'a offert.
Transmettre et peut-être enseigner à d'autres comment le faire.
Exactement. Donc, j'ai pu me former, notamment avec Christophe André. Vous savez, c'est le cours qui a été créé par John Kabat-Zinn, le cours de 8 semaines. Donc, Kabat-Zinn, il a eu cette idée phénoménale de prendre des techniques d'entraînement de l'attention qui étaient liées à une certaine voie du bouddhisme, Vipassana en particulier, la voie la moins religieuse du bouddhisme, les sortir de ce cadre-là et de les amener dans un format de cours de 8 semaines où les gens peuvent les exercer dans une rencontre en groupe une fois par semaine et à la maison tous les jours.
On s'entraîne, en fait.
On s'entraîne. Oui, et donc c'est un entraînement de l'esprit, comme il dit Christophe André, c'est vraiment ça. Donc cet esprit qui a l'habitude de faire exactement ce qu'il veut parce qu'on n'a jamais, on lui a jamais appris ce qu'on, enfin, on n'a jamais pris les rênes, au fond, de ce qu'on voulait obtenir de notre
esprit. Bon, il est sollicité aussi, à notre époque encore plus. Il est sollicité tout le temps, tout le temps.
Il est tout le temps sollicité. L'attention, c'est, à mon avis, notre bien le plus précieux. C'est la valeur marchande la plus élevée.
On essaye d'ailleurs de nous voler tout le temps.
Voilà, parce qu'à partir du moment où une publicité attire notre attention, on a, je sais pas quel pourcentage de chance d'acheter le produit. Donc l'attention, c'est vraiment notre bien le plus précieux. Et au fond, c'est reprendre le contrôle sur notre attention, c'est une attitude politique et révolutionnaire.
Voilà, l'adolescente qui milite. Alors, comment votre vie a changé après la traversée de cette maladie dont vous dites je me sens guérie? Parfois, certains disent on guérit jamais, on est en sursis, chacun dit comme il veut. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Vous êtes retournée à votre métier d'infirmière ou vous avez changé beaucoup de cap professionnel?
Je pouvais pas, j'ai essayé de retourner à mon métier d'infirmière, mais j'étais épuisée physiquement et puis moralement aussi, hein, parce que penser qu'on... Au début, je pensais que j'allais guérir. Après, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis préparée à tout ça. Puis quand j'ai vraiment tout lâché et puis dit « maintenant, ça suffit cette histoire, j'en veux plus », là, j'étais sûre vraiment que j'allais mourir. C'est à ce moment-là que j'ai guéri. Donc, tous ces paradoxes, ça a fait un maelstrom dans mon cerveau.
Qui a duré longtemps.
Qui a duré longtemps. Et donc, toutes les années qui ont suivi, ça a été des années difficiles où j'avais pas d'énergie, où je savais pas qui j'étais, qu'est-ce que j'étais devenue, qu'est-ce que je voulais faire. J'essayais de redevenir comme avant, mais ça marchait pas.
Donc le retour à la vie, entre guillemets, dite normale, n'a pas été facile.
Non, c'est des années qui sont difficiles. Je pense qu'on aurait besoin d'être beaucoup accompagné dans ces années-là. C'est un petit peu comme si la maladie, si on compare avec la métaphore de la chenille du papillon. Peut-être la maladie, c'est le moment où la chenille, elle va se mettre dans le cocon et puis elle devient une sorte de bouillie à l'intérieur du cocon. Puis après, il y a tout ce temps où on est bouilli, enfin on est déstructuré, on ne sait plus qui on est, jusqu'à ce que le travail intérieur soit mûr, puis que le papillon sorte. Eh bien, ça prend tout un temps où on est un peu paumé, enfin perdu. Et on est quelqu'un d'autre après des grandes épreuves comme ça. On est transformé par la vie.
Alors justement, le papillon, qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est retrouvé papillon? Dans quoi il s'est engagé?
Alors, ben, par exemple, justement, dans l'enseignement de la méditation. D'une façon très simple, pour moi maintenant, c'est vraiment une priorité que j'arrive pas à suivre tout le temps. De descendre de ma tête pour aller dans mes ressentis, pour suivre plutôt les impulsions qui viennent de l'intérieur du cœur, comme on dit souvent, plutôt que d'être dans les automatismes de la tête. Je pense que la maladie, ça crée cette alternative aux automatismes de la tête.
Bon, parce que tout d'un coup, le corps devient central. Tout d'un coup, il dit « Coucou, je souffre, je suis là et oui. Tu risques de me perdre. »
Oui. Et puis, il y a une certaine sagesse intérieure, la petite voix, enfin, ces choses-là, qui sont vraiment, qui deviennent des guides quand la tête est dépassée, parce que la tête voit bien qu'elle ne trouve pas les réponses. Donc voilà, vivre en étant de plus en plus en accord avec cette sagesse profonde, alignée avec mon cœur, c'est une chose. Et une autre, qui va avec, c'est... renoncer à utiliser la force. Bon, ben, la force, de toute façon, elle m'avait été un peu prise, physiquement en tout cas. Mais travailler plutôt avec l'élan qu'avec la force.
Alors, juste pour mettre une note un peu humoristique à notre rencontre, je crois qu'à un moment de votre vie, ou peut-être c'est encore actuel, vous avez fait du yoga. Alors, je vous propose un petit sketch sur le yoga.
Le Bouddha et tous les sages initiés à la tradition du yoga sont toujours représentés dans la posture de Padmasana, la posture du lotus. Alors si vous le voulez bien... Oh, bonté divine, Bouddha est parmi nous.
Non, c'est le professeur Y.
Vous avez le même physique que notre Bouddha vénéré.
C'est un compliment.
Mais bien sûr, notre Bouddha est une petite boule d'amour.
Ah oui.
Vous venez pour un cours?
Oui.
Alors installez-vous. Avec votre surcharge pondérale, nous allons plutôt essayer le demi-lotus. C'est beaucoup moins difficile.
Et je fais ça par terre?
Installez-vous par terre. Voilà, comme ceci. Pardon, nous ne devons pas rire des fautes de l'autre. Ça va?
Oui.
Maintenant, posez une jambe sur le sol devant vous. Voilà. Et repliez une seule jambe à demi-lotus. Allez, non, elle doit passer par-dessus la cuisse. Vous avez l'air tellement rouge, qu'est-ce qui vous prend ?
Rien, mais bon, c'est pas facile.
Ah, on n'a jamais dit que la connaissance de soi intérieure était facile, monsieur comment ?
Y.
Yoga nam nam.
Est-ce que parfois l'humour vous a aidé, Sylvie Staub, dans toute cette aventure ?
Oui, bien sûr. Regarder des vidéos qui font rire, Ellie Gag. L'humour, c'est rire, c'est extraordinaire le bien que ça fait. Ça nous ramène dans l'instant présent, alors ça pour sûr.
Et ça veut dire aussi qu'on a pris une petite distance par rapport aux événements, si on arrive à en rire.
Oui, oui.
Alors voilà, nous sommes au terme de cette rencontre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Cellule, je vous aime, récit d'une guérison inattendue. C'est une préface signée Rosette Poletti et c'est aux éditions Cabedita. Je vous souhaite une belle soirée ici et maintenant. Ah oui, et la conférence. Une signature que vous donnez chez Payot.
Chez Payot, samedi 29 février, dans 10 jours, de 11h30 à 13h, une dédicace.
À Lausanne ?
À Lausanne, chez Payot Lausanne.
Et voilà. Vous donnez aussi des conférences parfois votre expérience.
Oui, alors volontiers, je réponds volontiers aux sollicitations. Et puis les cours de yoga, aussi un cours auquel je tiens beaucoup qui s'appelle « Éduquer en pleine conscience » qui est destiné aux parents et aux professionnels de l'enfance. Comment amener la pleine conscience dans notre attitude avec les enfants. Et puis forcément, les formations à la pleine conscience.
Merci beaucoup. On vous souhaite bonne route, Sylvie Staub.
Merci.
Samuel Maurice-Genoux était en régie ce soir, Nathalie Schaumberg a choisi les musiques, Diane Dufaux est notre assistante de production. Voix off en seconde diffusion, juste après les infos. Il est 21h sur la première. Belle soirée à vous.